Pour entendre une expression de la volonté de Dieu, nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 20. C'est Jésus qui parle dans ce qu'il est convenu d'appeler le sermon sur la montagne. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ce qui est la plus petite des lettres de l'alphabet grec, ou un seul trait de lettre, ce qui est bien sûr le plus petit signe de l'alphabet grec, jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est un peu plus loin dans ce sermon sur la montagne que j'ai retenu un texte qui nourrira notre méditation ce matin, donc toujours au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 33. C'est toujours Jésus qui parle à ceux qui sont autour de lui. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point ». Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit « oui, oui », « non, non », ce qu'on y ajoute vient du mal. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Donc, vous avez compris que ce qui fait foi, c'est le panneau qui est face au pasteur pour indiquer les numéros des cantiques. Mais il s'avère que le deuxième cantique est à l'unisson, c'est le 208. Cantique 208, les strophes 1 et 2 pour nourrir notre foi, pour nourrir notre méditation. Levons-nous pour chanter ce cantique 208. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, sous une autre lumière. Que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit, nous soyons prêts à répondre à ton appel comme de véritables enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, la notion de parjure est peut-être assez éloignée de nos réflexions. C'est peut-être plus d'actualité de l'autre côté de l'Atlantique. Nous souvenons qu'il y a quelques années, par exemple, le président des États-Unis, William Clinton, avait été poursuivi pour parjure. Il était accusé d'avoir menti alors qu'il avait prêté serment. Une procédure de destitution avait même été envisagée pour ce motif, avoir menti alors qu'il avait juré sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et cette affaire Clinton illustre à sa manière cette parole de Jésus qui radicalise un commandement de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le livre du Lévitique. « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » En pareil cas, le parjure consiste en fait, au bout du compte, à traîner l'honneur de Dieu dans la boue, en le rendant complice de notre mensonge. Et cela est considéré par les textes bibliques, mais aussi par le puritanisme américain, comme une affaire autrement plus grave, bien sûr, que le mensonge lui-même ou que l'acte que le mensonge espère dissimuler. L'acte le plus grave qui puisse être commis par un homme consiste donc à bafouer l'honneur de Dieu, c'est-à-dire à humilier Dieu en le rendant complice de notre faute et donc, pour une part, responsable, co-responsable de la faute que nous commettons. Voilà peut-être pourquoi la prudence biblique consiste à ne pas entraîner l'Éternel dans nos mauvaises manœuvres, ni à l'utiliser comme garantie de notre foi, de notre bonne foi, ceci afin de ne pas lui faire porter la responsabilité de ce que nous disons ou faisons. Le livre du Lévitique demandait de ne pas jurer faussement, vous l'avez entendu, en invoquant le nom de l'Éternel. Eh bien, ici, Jésus radicalise ce commandement en excluant toute possibilité de jurer. Non plus seulement ne pas jurer faussement, mais ne plus jurer du tout, plus jamais. C'est que dans l'esprit de Jésus, cela signifie qu'à partir du moment où l'on prend à témoin le ciel ou la terre, on recourt finalement à Dieu, sous l'angle de la métaphore. Dieu qui symboliquement siège dans les cieux, Dieu qui parcourt la terre et participe au déroulement de notre histoire. Cela signifie aussi qu'en jurant sur la tête de quelqu'un, qu'il s'agisse de notre tête ou de la tête de notre mère, qui est souvent invoquée par les jeunes qui veulent jurer, pauvre mère, eh bien on se place comme maître de cette personne, alors que nous sommes bien incapables de changer ne serait-ce que la couleur d'un cheveu de la personne en question. C'est un peu comme si nous nous arrogions un droit sur cette personne ou sur nous-mêmes. Donc Jésus radicalise le commandement de l'Ancien Testament. Il radicalise l'interdiction de jurer en établissant que dans tous les cas de figure, nous mettons Dieu en demeure de couvrir nos agissements, d'en faire le protecteur de nos serments, à la manière de la divinité grecque, Orkos, dont le nom signifie justement « serment » en grec. Jésus radicalise cette interdiction, ce commandement, pour nous empêcher d'utiliser l'Éternel comme une sorte de paratonnerre qui nous empêcherait de subir les conséquences de nos actes. Au fond, il me semble que Jésus radicalise ce commandement pour nous éviter de devenir irresponsables, pour éviter de renvoyer à Dieu la responsabilité de nos engagements, surtout lorsque nous ne les tenons pas. Du coup, si nous avions arrêté notre lecture au verset 36, nous aurions une sorte de manifeste en faveur de l'abstentionnisme, car nous pourrions très bien comprendre qu'il ne faut plus jurer du tout, au sens où il faudrait s'abstenir d'engager sa parole. Nous pourrions comprendre que Jésus essaie de neutraliser en nous toute volonté de prendre position et d'affirmer nos convictions. Et par un habile massacre à la tronçonneuse, qui expurgerait le dernier verset que j'ai lu, nous pourrions obtenir une parole de Jésus nous mettant en demeure de ne plus rien exprimer, de ne plus rien faire au risque de devenir parjure. Mais il y a le verset 37. « Que votre parole soit oui, oui, non, non. » Verset qui est parfois traduit par « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Verset qui impose une autre logique, à vrai dire, et qui récuse toute forme d'abstentionnisme, et qui nous met en demeure de prendre position dans le cours de notre vie. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non. En fait, Jésus ne nous laisse pas de liberté quant au fait de prendre la parole. C'est comme si prendre la parole était une évidence pour lui. Nous ne saurions nous abstenir de prendre la parole. Pour dire oui, pour dire non, mais parler. Jésus nous appelle à nous exprimer. Il nous appelle à être une force d'adhésion ou de résistance, selon les cas, mais certainement pas à faire preuve d'attentisme, ni à être un spectateur qui serait subjugué par le cours de l'histoire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais de grâce, qu'il y ait un choix, prêche Jésus. On ne peut pas regarder les trains de l'histoire passée sans être pour ou contre, finalement, sans être collaborateur ou résistant. On ne peut pas observer le monde se faire ou se défaire sans être partie prenante, d'une manière ou d'une autre, de ce qui est en train de se réaliser. D'ailleurs, en bonne logique, ne pas faire de choix, ne pas prendre position, c'est faire un choix. C'est prendre position. C'est faire le choix de suivre la majorité. C'est faire le choix de confier à un autre la responsabilité de la décision, du projet ou de l'idée, en lui donnant carte blanche, en le laissant faire à sa guise. Et c'est justement ce que Jésus essayait de dénoncer dans les exemples précédents. Celui qui se réfugie derrière la figure tutélaire de Dieu abdique en quelque sorte devant ses responsabilités. Il laisse à un autre le soin de porter la responsabilité de ce qui se passe. Il se désengage et laisse faire autrui. Il donne les pleins pouvoirs à Dieu ou à ce qui tient lieu de Dieu dans les circonstances présentes. Bref, dans l'esprit de Jésus, il importe qu'il y ait un oui-oui ou un non-non, mais qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Il importe que nous prenions la parole, que nous affirmions nos convictions, que nous fassions des choix. Ou pour le dire avec les mots du sociologue Peter Berger, il y a un impératif hérétique que le chrétien doit faire valoir. Je m'explique. En grec, l'hérésie, c'est le choix. C'est le fait de choisir. Être hérétique, c'est faire un choix. Alors ce terme, nous le connaissons parce qu'il a été marqué de manière très négative dans l'histoire du christianisme. Cela parce qu'à travers les siècles, les églises ont fait la chasse aux hérétiques. Et pour ce faire, elles rédigeaient des confessions de foi qui permettaient d'exclure ceux qui n'adhéraient pas à la position majoritaire. Des confessions de foi ont été rédigées et votées par des assemblées d'église pour exclure ceux qui avaient une vision du divin, une compréhension de la foi, une compréhension de l'existence qui était nuancée ou franchement différente par rapport au ténor du christianisme de l'époque. C'est pourtant à l'hérésie que Jésus nous convie en nous exhortant à faire des choix au lieu de suivre bêtement la foule ou celui qui parle le plus joliment ou celui qui nous caresse le mieux dans le sens du poil. Non pas se laisser aller dans le sens du vent dominant, mais se déterminer en son âme et conscience, sans prendre Dieu pour parachute ou la tête de quiconque pour bouc émissaire de notre irresponsabilité. Que notre parole soit oui, oui, non, non, cela nous empêche aussi de passer notre temps dans une sorte de discours de la méthode interminable par lequel nous nous abstenons de faire nos propres choix. Et cela est peut-être un mal aussi bien dans l'Église que dans la société civile. Passer son temps à discourir sur la méthode plutôt que d'agir et de faire des choix. À un moment donné, il faut arrêter de dire ce qu'est la prière, par exemple, et se mettre à prier. À un moment donné, il faut cesser de dire ce qu'est l'amour et aimer. À un moment donné, il faut cesser de disserter sur la foi et faire un peu confiance. À un moment donné, il faut arrêter de dire que la mondialisation, c'est une donnée très compliquée et il faut intervenir pour construire une mondialisation à visage humain. Il faut arrêter de dire que l'économie nous dépasse. Il faut faire de l'économie. Nous pourrions décliner ainsi tous les thèmes où, au lieu d'agir, au lieu d'entreprendre, au lieu d'édifier, nous essayons de baliser le champ sans jamais intervenir dessus. Et si on laisse un champ en friche, s'il est bien délimité mais que nous ne le travaillons pas, alors il y a peu de chances que de bons fruits y poussent et que nous puissions les récolter. Jésus, me semble-t-il, nous engage dans le temps de l'action. Ce qui ne veut pas dire absence de réflexion ou de méditation, mais à un moment donné, il faut se déterminer, il faut y aller. À un moment donné, il faut s'engager. Jésus refuse, me semble-t-il, que nous nous abîmions dans l'abstentionnisme qui refuse de faire des choix au prétexte qu'on ne serait pas encore en capacité de les faire. Jésus ouvre le temps du choix, de l'hérésie, où nous avons notre parole à dire, même imparfaite, même non aboutie, même balbutiante. Comme s'il fallait être un bon croyant pour être baptisé. comme s'il fallait être un bon politologue pour voter aux élections. Si tout le monde attend que tout soit parfait pour dire oui, alors nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que ce sont les Verts qui s'occuperont de la teinture de nos cheveux. Alors je reconnais que la formule a parfois du mal à résister à l'épreuve de la réalité et que le radicalisme dont fait preuve Jésus est peut-être une belle pétition de principe, une belle posture théologique, mais que c'est impraticable au jour le jour. Il y a tellement de situations où notre oui ne peut pas être totalement oui, ni notre non totalement négatif. Il y a beaucoup de situations où il faut mettre un petit mais. Oui, mais. Un mais qui s'impose et nous impose de différer nos décisions tant que nous n'avons pas trouvé une meilleure solution. Je prends un exemple délibérément extrême, mais Jésus est tellement radical qu'un exemple extrême sera le bienvenu, et qui me semble bien adapté pour exprimer les conflits de la morale auxquels nous sommes parfois exposés. Et je prendrai l'exemple du médecin. Le médecin s'est engagé à soigner son patient. Il s'est engagé à soigner toute personne qui en aurait besoin. Et, a priori, le médecin ne s'intéresse qu'à la santé de son patient. Peu importe qu'il soit un héros ou un criminel, ce qui compte, c'est son état de santé. Alors, il est bien des situations où le médecin se trouve confronté à des situations où il ne sait que faire. Non pas qu'il ait l'embarras des thérapies, ou qu'il n'ait pas de solution pour améliorer l'état de santé de son patient, mais qu'il se trouve dans une situation où il vit un déchirement intérieur profond. Et je pense à ces cas, toujours d'actualité, où le médecin est appelé à soigner une personne qui est torturée. On lui demande de soigner cette personne pour éviter qu'elle meure des sévices qui lui sont infligés et qu'elle puisse être encore torturée. Quel choix dans ce cas ? Soigner parce que c'est la vocation du médecin ? Ou refuser de soigner pour ne pas être tortionnaire à son tour et ainsi abréger peut-être les souffrances de la victime ? Dans les deux cas, le choix s'accompagnera d'un « mais ». Oui, je soigne, mais. Non, je refuse de soigner, mais. Le oui ne peut pas être entièrement oui. L'adhésion ne peut pas être totale. De même que le refus, le non, ne peut pas être entièrement négatif. Et c'est là une situation extrême, je vous l'accorde. Mais d'autres situations dans la vie courante nous mettent face à des choix qui sont peut-être moins critiques, mais qui sont également conflictuels sur le plan de la morale, car le bien que l'on veut faire provoque aussi du malheur. Même le bien que l'on veut faire provoque du malheur. Songez que lorsque vous épousez quelqu'un, tous les autres candidats potentiels se trouvent exclus. C'est sur cet aspect des choix que la deuxième partie de la phrase de Jésus est intéressante. C'est là que j'y entends l'Évangile, après le sermon qui nous dit « il faut y aller les petits gars ». C'est quand il dit que ce qui n'est pas « oui-oui » ou ce qui n'est pas « non-non » vient du mal, ou du malin, si on veut théâtraliser le mal, ou ce qui fait mal. Je crois que Jésus, à cet endroit de sa réflexion, nous dit que tous ces « mais » que nous devons coller à notre « oui » ou à notre « non », tous ces « mais » qui ont de quoi nous tétaniser, nous conduire à l'abstentionnisme, nous empêcher de faire des choix parce que dans tous les cas, le bien que nous ferons s'accompagnera aussi d'une dose de mal, tous ces « mais », Jésus indique qu'ils ne nous seront pas imputés, qu'ils ne nous appartiennent pas. Cette parole de Jésus, je crois, nous aide à soigner notre sentiment de culpabilité, d'une culpabilité qui, en fait, ne nous appartient pas dans bien des situations. Jésus nous révèle qu'il y a des situations terriblement ambiguës que d'autres nous infligent. D'autres où l'absurde, il y a du mal absurde, du mal qui n'est pas le fait d'une personne, de la volonté de quelqu'un. Mais il y a des situations ambiguës où le « oui-oui » ne peut pas s'empêcher d'appeler un petit « mais ». Dans ce cas, nous ne devrions pas nous charger d'un mal qui ne nous appartient pas. Nous ne devrions pas faire nôtre, adopter un mal qui dépend d'une situation qu'on nous inflige, qu'on nous impose, mais que nous n'avons pas voulu. Je veux dire que dans ces cas, nous ne devrions pas nous charger de la faute d'autrui, de la même manière que lorsqu'on nous demande de résoudre un problème dont l'énoncé est faux, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à apporter une réponse juste. Et lorsqu'on nous pose une mauvaise question, souvent la réponse n'est pas très bonne. Jésus met le doigt sur la question du bien perverti, sur la question des objectifs qui sont pervertis, qui ont été détournés et dont nous sommes désormais les otages. Que faire quand on est otage d'un détournement du bien ? Eh bien, en général, on essaie d'être libéré de cela. Eh bien, c'est ce que Jésus fait ici. L'impératif hérétique auquel il nous appelle est une sorte de médecine qui soigne notre âme, qui nous évite de devenir une victime de plus, une victime qui considérerait que ce qu'elle subit est son fait, qu'elle est la cause de son tourment, ou alors en devenant complice, en épousant la cause des malfaiteurs, selon le fameux syndrome de Stockholm. L'impératif hérétique consiste à faire nos propres choix, en restant à distance de la logique qu'on voudrait nous imposer. C'est en quelque sorte une posture de résistance. Considérer que tout ce qui est dit n'est pas forcément bon à prendre dans son intégralité. Et mettre à profit cet espace de liberté que Jésus élargit par son interprétation de la loi. Quand il dit « Vous avez entendu des anciens, mais moi je vous dis », il ouvre un peu d'espace à la réflexion. Il pose que notre situation, aujourd'hui, ne peut pas se soumettre aveuglément à des discours du passé. Bref, Jésus nous ouvre un petit espace de liberté pour que nous fassions nos propres choix, en prenant conscience que les figures imposées, lorsqu'elles sont perverties, ne nous seront pas imputées, ce qui nous permet d'avoir finalement une justice qui est bien supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Et Jésus nous fait découvrir que ce qui n'est pas « oui-oui », ce qui n'est pas « non-non » appartient au mal, ne nous appartient pas, ce qui est une autre manière de dire que nous serons justifiés au-delà de nos œuvres. Amen.